avec Elina Canovosi, Mortel Vignan, Paul Mirabel, bonjour. Jérémy Crédville, Tanguy Passereau, Daniel Morin.
Et bonjour Morgane.
Et notre invité, Mathieu Madelian. Alors, quel blind test peut-on faire quand on a Mathieu Madelian?
D'abord,
attends, rire. Est-ce que vous le connaissez tous personnellement? Dites-moi la vérité.
Non, moi, il refuse.
Toi, il refuse de te connaître personnellement, intimement, tu veux dire. Morgane?
Oui, à fond.
À fond.
Non, mais c'est un pote, quoi.
Très bien. Paul?
Totalement.
C'est un totalement pote aussi.
Très bien. Moi, je connais.
Jérémy?
Oui.
Ah, moins pote.
C'est pas un peu, on se voit pas.
Moins que Morgane.
Nous, on l'a beaucoup croisé Lille, dans les comédie clubs à Paris.
L'école française.
D'accord. Et toi, à Lille, non, tu l'as pas croisé.
Pas encore.
Très bien. Tanguy, parce que.
Je l'ai croisé une fois dans un club.
J'adore. Et là, tout le monde imagine.
Ça fait club échange juste
non, mais bien sûr que non.
Bien sûr que non.
Tout et n'importe quoi.
Et moi, on me demande pas quoi.
Si, Leïla.
Et ouais,
j'ai fait tour des humoristes.
Mais elle est drôle, Leïla, quand elle veut. Ou qu'elle veut pas.
Surtout quand elle veut pas. Ouais. Surtout quand je veux pas. Oui,
non,
je connais.
T'as pas travaillé avec lui?
Non, j'ai pas travaillé avec lui.
Eux, ils ont pu échanger des scènes et bosser ensemble.
Si. Bon, enfin, les humoristes, ça bosse pas vraiment.
Voilà.
T'as jamais pris de drogue avec Mathieu Madelian?
Non, jamais.
On va en parler avec lui dans quelques instants. Donc, le blind test, oui.
Sur le Mathieu.
Tanguy.
Oui, Tanguy.
C'est pas Jean-Jacques Goldman?
Famille.
Ah. Famille.
Ah oui,
de ma famille.
C'est la famille.
De mon ordre et de mon rang.
Waouh.
Bah oui. Mais écoutez.
C'est toi, tu vas finir, n'oubliez pas les
paroles. Patrimoine.
J'en rêve, hein. Un soir.
Franchement, ça vaut le sein.
Nous aussi, on en rêve.
Ah oui, on peut faire une séance privée.
Moi, je veux bien, mais si c'est pas filmé.
Ça passe pas à la télé.
Bon, au karaoké, quoi.
Ah bah c'est con. Parce que ça passe un peu quand même.
Moi, je veux bien, mais si c'est payé.
Allez, pour les autres, je sais pas. Moi, c'est payé.
Ouais.
Ah, tiens.
Ah, vous êtes bien débrouillés. Hein.
Qui chante?
Jérémy.
Daniel. Les Grâces Vertes.
Oui.
Ça s'appelle comment?
Famille heureuse.
Ouais.
Bravo.
Famille nombreuse. Jamais d'être de famille.
Famille heureuse.
Quand on est frères et sœurs.
Ah, ah.
C'est le bonheur. Qui est le premier point? Toi, Morgane?
Ouais. Non. Non, c'est Tanguy.
Ouais.
Moi j'ai juste chanté, mais j'ai pas reconnu.
Non, mais j'ai pas noté, excuse-moi, mais regarde pas comme ça.
Ah non,
il est très procédurier.
Non,
c'est huissier avant.
Très bien. Il se vexe pour un rien.
Mais même pas.
Qui chante ça?
La famille.
C'est Orelsan.
Bravo Paul!
En fait, les blindés, c'est très générationnel.
Bah ouais.
On voit quel âge les gens ont en fonction de leur réponse.
On va se faire chier si je vous fais des excuses. Ouais. Souvent, je parle de disputes. Ouais. De fin de repas, j'aimerais parler des débuts.
Ouais. Qui chante ça?
C'est pas Hocus Pocus?
Non.
Musique de club.
Ouais.
Family
ah,
affair.
C'est Tanguy! C'est Sly and the Family Stone.
Exactement.
Même pas pour
oh. C'est bon ça.
Ah, mais ça si tu danses pas là-dessus, c'est que t'as rien compris.
Donc t'as Sly Stone.
Écoute.
Sly Stone qui a une vie incroyable, il est toujours vivant.
Et alors?
C'est-à-dire qu'il
a 24 ans.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, il te dit ça, mais... t'as l'impression que c'est une injustice.
Non mais oui, parce qu'il aurait, en fait, d'après la vie qu'il a eue, il aurait dû mourir à 24 ans comme tout le monde. Mais...
Bah Nagui aussi. Hein.
Oui, mais
qui chante ça?
Morgane.
Leïla. Oh.
Marie Jublaï.
Oh, ouais.
Je suis nul en famille.
Ça, pourtant dans le Nord.
Ah ouais. On est trop.
Pourtant t'as quand même 12 enfants.
Mais oui.
Avec ta sœur en plus.
Je l'embrasse. Beaucoup.
Il paraît, ouais. Fait.
Un point pour Morgane, un point pour Paul Mirabel, un point pour Daniel Morin, deux pour Tanguy. Qu'est-ce qui se passe?
J'étais sur Marie Dublage, mais trop lente.
Ouais. Ouais,
alors, ça va être très facile. Je veux votre prénom et attendez que je vous donne la parole avant de me donner la réponse.
Leïla, Sister Sledge.
Yes.
Bah, je crois que tout le monde a un point.
Non, Tanguy, on a deux.
Ah non.
C'est pas ce couplet là.
Je suis couronné de couplet à chaque fois.
Vous savez qu'elles sont toujours vivantes.
Alors voilà. Tout le monde n'a pas un point, pourtant, parce que toi, en l'occurrence, Jérémy, tu n'as rien.
J'ai oublié.
Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Voici le super banco. Voilà.
Daniel.
Je veux l'interprète.
Daniel. Fujis.
Joli.
Oh, Daniel.
Je l'avais, mais maintenant.
Et ça, c'est joli, Daniel. Je pensais jamais que vous
aimeriez
un truc comme ça.
Et tu as tort de me sous-estimer.
Oui, oui.
Accepte mes invitations.
Il te sous-estime pas, il te méprise. Parce que le côté, je ne pensais pas que tu connaisses les Fugees.
Non, bah oui, non, je m'a sous-estimé, pas méprisé.
J'avais 52 ans.
C'est un jugement extrêmement violent, catégorique et définitif. Honteux. Je suis choqué.
C'est choquant.
Je suis choqué.
Et si on accueillait notre invité?
C'est la victoire. La victoire de monsieur Daniel Morin.
Daniel.
Et voici celui que je ne voulais pas inviter, monsieur Mathieu Manégan.
Bienvenue.
La bande originale avec Nagui.
C'est bien de se sentir désiré.
Comment ça va?
Bienvenue Mathieu.
Je vois que des collègues autour de la table, c'est génial.
C'était la question que j'ai posée avant, justement, de savoir avec qui vous aviez croisé, peut-être pas le faire sur scène, mais au moins croisé dans des loges, fait quelques spectacles ensemble, parce que c'est vrai que ce milieu du stand-up pousse à, j'imagine, se fréquenter, se croiser à Montreux.
Ah bah oui, mais je les connais tous, on s'est tous croisés, et c'est des très bons en fait. C'est vraiment des très bons. Et ils font le métier le plus dur, c'est faire des chroniques. On se rend même pas compte de la difficulté
c'est. Merci,
non, mais
Mathieu.
C'est vrai.
Ça
c'est,
la météo.
C'est remettre son titre en jeu. Parce que quand tu fais une bonne chronique, les gens s'en souviennent
qu'une
journée.
Qui n'arrive pas souvent.
Non, si j'écoute l'émission, ils font des très bonnes chroniques.
Ou un bon passage en télé.
Voilà, exactement. Mais quand t'en fais une mauvaise, toute la semaine, c'est dans ta tête. Et tu fais, putain, mais c'est vraiment le métier le plus dur que vous faites. Et bravo.
Mais c'est quel invité de génie. Merci.
C'est comme ça que vous avez commencé.
Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai arrêté. J'en pouvais plus. Non, j'étais en soins palliatifs chez Drucker. J'ai fait ça pendant 5 ans.
Et la radio aussi, à Europe.
La radio Europe 1 avec Drucker aussi, qu'on embrasse, qui nous écoute de là-haut. Mais,
non, je l'embrasse
très, très fort. Mais oui, moi, j'ai fait ça pendant des années.
Il est
mais
mort?
Qu'est-ce que c'est dur. C'est son hologramme qui est sur France 2.
Oh. C'est horrible.
Il l'arrête pas, Mathieu.
Non, mais Mathieu, il a un taux de remplissage énorme parce qu'il fait du surbooking.
Vous parlez de ses veines ou des salles?
C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui décèdent entre le moment où ils réservent. Je te jure que c'est vrai.
On est obligé de prévoir. On est obligé de prévoir. À l'époque de Drucker, c'était ce qu'on pouvait. Oui, c'est vrai. Mais on remplit tous. On a une chance. Incroyable.
C'est une vanne qui est dans le spectacle d'ailleurs.
Mais oui. Ouais. Mais on a une chance, c'est que tous les gens qui sont autour là remplissent leur salle. Et merci aux gens qui viennent nous voir sur scène parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué.
Ce spectacle familial, alors on est vraiment dans une semaine à thème. Nous, hein, on a fait une émission sur le cancer, une émission sur l'avortement, maintenant une émission sur les drames familiaux et la violence familiale avec vous, Mathieu Manégan, parce que à voir et à entendre ce qui se passe dans votre famille. Mais comment vous avez fait pour survivre?
Mais j'ai la famille la plus extraordinaire du monde.
Parce qu'elle tolère que vous balanciez autant de vannes.
Mais ils sont contents. Mon père, il m'a dit, c'est bien, tu fais de l'argent grâce à nous. C'est très bien, continue. Ah, mais c'est juste ça, lui. Il vérifie le nombre d'invitations qu'il y a dans les salles et il me dit, moins d'invitations, plus d'argent. C'est très bien comme ça. Mais oui, non, mais moi, j'ai une famille qui est fabuleuse. J'ai juste pris des anecdotes qui me sont arrivées avec la mienne pour essayer d'en faire des généralités qui concernent le plus de monde possible.
En grossissant le trait, avec un père quand même qui aime être VIP.
VIP.
J'ai un père qui a la grosse tête, c'est tout. J'ai un père qui aimerait, il aurait aimé être comique, et dès qu'il peut m'accompagner sur les tournées, il vient, il est dans les loges, et quand je sors des loges, il me dit on a été bon. Ouais. Mais c'est ça. J'ai un père qui a la grosse tête. Mais
vous l'avez jamais fait monter sur scène?
Non, vaut mieux pas.
Non.
Vaut mieux pas. Mais il rêve de ça, mon père.
Qu'est-ce qui vous a fait rire au début? Quand on est minot, on rit quoi? On rit des vannes dans sa famille, on rit de bandes dessinées, on rit de films qu'on voit à la télé, des Louis de Funès et Charlie Chaplin.
D'autres humoristes.
Les premiers. Le genre de vanne qui vous faisait rire quand vous étiez gamin.
Quand j'étais petit, je regardais mon père qui regardait De Funès à la télé ou qui écoutait Coluche. Je comprenais rien. Et je disais, mais c'est qui ce mec à ce pouvoir sur mon père pour le faire marrer? Et c'est ça qui... Il me dit, je veux faire ça. Je veux avoir ce... Et le déclic, c'est...
Sans comprendre la vanne, vous, parce que quelqu'un réussissait à faire rire papa.
Père, ben c'est ça, en fait. C'est le pouvoir du... mon père, c'était... Ouais, et même ma mère, quoi. Et je me dis, mais ces gens ont le pouvoir de faire rire mes parents. C'est incroyable. Et le mec qui m'a déclenché c'est Dupontel. Je me rappelle, j'ai vu le sketch Rambo dans les émissions Carnaval de Patrick Sébastien.
Exact.
Et quand j'ai vu ce mec faire Rambo, je me suis dit, oh, mais c'est ça que je veux faire plus tard.
Et
c'est juste ça.
Et faire Patrick Sébastien aussi.
Oui.
Et participer à une émission de Patrick Sébastien.
Mais là, ça donne tout un sketch.
Ça, c'est stylé.
C'est incroyable.
Moi, j'ai fait, j'ai avec fait Patrick Sébastien avec Joey Starr et un magicien avec la meuf. Ça qui se cache dans les loges.
Et ouais, parce qu'elle avait disparu et Joey Starr qui se lève et qui fait elle est à gauche. Oh là là, et le magicien qui faisait la gueule et tout. Mais oui oui, mais j'ai c'est vrai que je fais Patrick Sébastien.
Il prend cher Patrick Sébastien.
Mais non, alors non, non, je raconte ce qui s'est passé et encore une fois s'il n'y avait pas eu Patrick Sébastien, il y a des c'est un métier d'accident plus ou moins heureux. Moi j'ai eu la chance d'avoir des accidents heureux. J'ai rencontré des gens fabuleux, des Michel Drucker, des Patrick Sébastien qui m'ont fait faire leur émission alors que je commençais à peine, et s'il n'y avait pas eu ces gens-là dans ma vie, ben je serais pas derrière ce micro en train de vous parler. Et oui, je me moque gentiment de la dernière du Grand Cabaret de Patrick Sébastien, parce que moi elle m'avait tellement marqué cette émission, donc voilà, ça m'a fait rire.
Vous étiez à la dernière, c'était
à la dernière, ouais. Ouais, ouais, ouais.
À cause ou grâce à vous, ouais, que l'émission s'est arrêtée.
Non, il mérite. Hein. Non, je dirais rien là-dessus. Mais oui, c'était quand il a fait une petite pipe avant de dormir.
Ouais. Qui est une chanson.
Ouais. Ah, ouais, c'est une chanson. Bah, ouais. Parce que j'avais la caméra qui passait devant moi. J'étais obligé de mimer, de faire comme ça.
Il y avait la choré.
Oh, bah, la choré qui était. Oui, oui.
Non, mais c'est surtout qu'il se met. Il vous dit après l'interview, enfin, où vous écoutez à peine, vous avez un petit moment pour faire votre promo, et il dit, ah bah ça tombe très très bien. Il y a aucun rapport avec ce que vous venez de raconter.
Non, je parlais de la promo. Et je parlais de Charlie Hebdo. Je dis voilà, j'ai des potes à moi qui ont été tués dans un attentat. Il fait ça me donne envie de chanter ma prochaine chanson, une petite pipe avant de dormir.
J'espère qu'il vous écoutait pas.
C'est dans le côté, vas-y, on dépasse les limites, oui, Charlie Hebdo, tout ça, oui. Tu vois. Mais c'était tellement. Moi, j'étais. Mais en fait, c'est ça. Notre métier, c'est de prendre des moments de notre vie qui ne paraissent pas drôles et d'en faire des moments marrants.
C'est
quoi.
Ça. Voilà, comme c'est pour se ça. Protéger aussi, comme pour soigner.
Oui, toutes les bonnes comédies, que ce soit des films ou des sketchs.
Ont un départ dramatique.
La base, elle est plus ou moins triste, plus ou moins dramatique, et c'est ce qui en fait la drôlerie, en fait. C'est de se prendre ça.
Est-ce que là, vous avez compilé tout ce qui était autour de la famille pour faire un nouveau spectacle, ou tout a été écrit de A à Z
J'ai fait ce spectacle, il a été écrit vraiment. J'ai fait
ça s'appelle un spectacle familial, ouais. Hein, j'ai oublié de
c'était pour que les journalistes, ça soit beaucoup plus simple pour eux. On avait dit, avec Adéraoun, on a un spectacle familial, allez, on s'en sort comme ça. Mais en fait, on a fait la dernière de
quel respect des journalistes.
Ça fait un peu. Un état d'urgence. Un état d'urgence. Le deuxième spectacle, on l'a capté au Bataclan. Je me rappelle, un vendredi. On fait deux séances, 19h et 21h. Et à 23h, le Bataclan est à côté du Panama Café, un comedy club dans lequel je joue souvent. Et je suis avec Kader et mon équipe. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va bouffer au Panama. On va bouffer au Panama. Et il y avait un plateau, ça jouait. Et Kader me dit, vas-y, monte sur scène et raconte ce que tu veux. Et je monte sur scène. Et là, je sais pas ce qui se passe. Je parle de ma mère qui m'en a voulu parce que j'ai pas pu décaler le Bataclan. Elle a pas pu venir à la représentation. Et je parle de ça. Et les gens se marrent. Et je commence
en
à raconter.
En impro,
je commence à parler d'anecdotes de mon père. Et en sortant, je dis, vas-y, on va parler de la famille, ça a l'air de leur plaire, et moi j'ai envie d'en parler. Et comme je faisais beaucoup de politique, de société, de trucs, je dis, vas-y, on va parler de la famille. Et la famille, c'est un bon moyen justement d'élargir et de parler de tout, en fait.
Est-ce qu'il y a des choses que votre famille ou votre sœur vous demande de ne pas dire?
Oui, et c'est sur scène. Il y a plein de trucs.
Comme c'est la préférée.
Ah mais c'est la préférée. Oui, mais encore une fois, c'est la préférée.
Non mais ça, elle va pas le dire.
C'est la préférée. C'est quand j'ai demandé à mes vos parents qui est la préférée, il y en a toujours un. Moi, j'ai demandé à ma mère, je lui ai demandé qui tu préfères entre ma sœur et moi. Elle me fait, mais non, je vous aime pareil tous les deux. Je lui dis, imagine, on est sur le Titanic. Il coule, qui tu sauves? Et là, elle est en cachette, ta sœur. Je dis, mais pourquoi? Parce que toi, tu sais nager. C'est incroyable de dire un truc comme ça.
Tout ça est dans le spectacle de. Ce qui est fort, en tout cas, et c'est un don, Mathieu Badédian, c'est d'être capable d'écrire des histoires, de les raconter sur scène, et là, de continuer de raconter comme si c'était une interview, en disant, mais je vais répondre à votre question, elle est tellement naturelle. Ouais. Et le mec, il est à la syllabe, mais il colle à la syllabe du spectacle. C'est incroyable.
Mais c'est un truc qu'on apprend sur scène, je pense. C'est juste, quand tu montes sur scène, t'as pas de parachute. Tu te lances, et en général, c'est juste des gens qui racontent des histoires.
Ouais, mais sauf que dans votre vie privée, on sait même plus là ce que.
Tout est vrai.
Dans l'intimité.
Ah, mais tout est vrai. C'est le seul truc.
Peut-être que la seule phrase qui n'est pas vraie, c'est quand vous dites tout est vrai.
Non, en plus, je te jure, c'est vrai. C'est que le seul moyen d'être sincère, c'est de dire la vérité sur scène. En fait, tu peux raconter plein de blagues si c'est pas sincère, si c'est pas assumé, si c'est pas vrai. Tu t'y retrouves pas trop. Moi, quand je monte sur scène, j'ai l'impression d'être avec ma famille tous les soirs. Je trouve ça génial. Donc voilà.
Et en plus, vous êtes payé.
En plus, je suis payé. Hein.
Et c'est vrai que tout le monde se reconnaît.
C'est ça qui est aussi hyper
dans les rapports familiaux, c'est qu'on
on
a des repères.
Chacun un petit morceau.
Ouais, on a tous un point commun autour de cette table. On a tous une famille. Et on s'est tous construit en opposition ou pas en opposition par rapport à cette famille-là. Donc, par définition, tu touches tout le monde, quoi.
En fait, vous faites votre psychanalyse sur scène et vous faites payer les gens.
Oui, exactement. Et ça n'a pas marché puisque mes parents, personne n'a changé dans ma famille. Ils ont dit, vas-y, les rapports. Il y a un truc qui ne change pas, c'est la famille, par contre. Là, il y a les fêtes de famille qui arrivent.
Ah, ouais.
C'est sûr que rien n'a changé. Mais ça les fait marrer.
On m'a dit au casque, si tu veux une petite pipe, je suis prête. C'est exactement la phrase qu'Alicia m'a dite et ça donne ça.
Hey. Et la scène est dingue. Est-ce qu'on peut retrouver ces images
toujours la même
sont sur YouTube. Mais moi, Sébastien, c'est quand on parle d'artiste dans ce métier, pour le coup, c'est un vrai artiste, ce mec-là. C'est vrai, un vrai artiste. Un mec aime la scène. Là, il est en tournée avec ses chansons et tout. Moi, je trouve ce mec. Encore une fois, c'était. Il y avait pas beaucoup d'émissions. Même maintenant, t'en as plus où tu peux faire un sketch. Il n'y en a plus. Avant, tu pouvais faire ça chez Patrick Sébastien et chez Drucker.
Où tu pouvais arriver. J'ai ruqué quand même, il y avait On demande qu'à en rire.
On demande qu'à en rire, ouais. Sauf que t'étais noté. Maintenant.
Ah oui, pardon, d'accord.
Mais maintenant.
Alors, il y a deux choses. Il y a faire des sketchs en étant connu dans les émissions comme Drucker, Sébastien, ouais. Et c'est à vous, non? C'est pas possible.
Je sais pas, non. Je sais pas. Maintenant, dis-moi une émission à la télé où tu fais des sketchs, à part des plateaux.
Génération Paname.
Ouais, tu peux faire des émissions comme Montreux, Génération Paname, qu'on a fait. Canal aussi fait pas mal de trucs, mais à l'époque, t'avais Drucker et c'est Patrick Sébastien.
Et On demande qu'en rire, c'est pour révéler de nouveaux talents.
Oui, tout à fait, ouais. C'est ça. Mais c'est incroyable. C'était les deux seules émissions réellement où tu pouvais arriver, faire un sketch et.
Maintenant c'est la radio.
Maintenant c'est la radio, ouais.
Et partout.
Ouais.
Mais peut-être aussi il y a quelques, je suis en train de réfléchir, il y a quelques émissions de je pense à Laurence Boccolini qui réunit des humoristes sur scène
c'est pas le mélange des genres d'avoir l'immersion
comme les émissions des années 70 les Mariette Gilbert Carpentier, t'avais des chanteurs, t'avais quelques humoristes qui venaient, maintenant il y a plus.
Ouais.
Oui, alors faut pas non plus trop en faire sur ces émissions là parce que regarde-les à nouveau, tu verras que c'était
non mais je veux dire le principe,
si que ça. Principe. Oui, le principe était surtout de demander à des chanteurs de faire des sketchs, ce qui serait juste impossible.
Ah oui, maintenant,
à faire aujourd'hui.
Maintenant, tu peux plus,
ouais. Non, on peut demander à des humoristes de chanter.
Non, merci.
Mathieu.
Non, je chantais. Qu'est-ce que. Non, je suis nul. J'aime bien cette chanson. Et tu danses avec lui.
C'est Jérôme.
C'est Jérôme.
Ah, mais j'adore cette chanson.
Ouais, ouais,
me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'aime bien cette chanson.
La tête sur son
épaule. C'est ton plus mauvais rôle. Un truc comme ça.
Ouais.
Ah, j'aime bien ça.
Un jour, frère, n'oubliez pas les paroles.
Ouais, je l'ai fait. Rappelle-toi.
Ah, ouais, comment l'oublier.
Ouais.
On est ravis.
C'était Kata.
C'était Kata. Je sais pas. J'ai fait perdre une assoce. Non, j'ai gagné.
Ça, c'est drôle.
T'as fait mourir un enfant.
J'ai fait perdre 2000. J'ai fait.
Non, mais 8 ans,
gamin par terre qui attendait son fauteuil.
C'est pire, il a perdu l'espoir.
Il a relancé la myopathie.
Ils ne verront jamais la mer.
Mathieu.
Merci Mathieu.
Mathieu Madénian, le 4 décembre prochain sera à Malermort-sur-Corrèze.
Oui,
le 16 décembre.
On fait des petits villages.
À Bourg-les-Valence. Ouais. Le 17 décembre à Voiron. Puis en tournée en toute la France. Et les 21-22 janvier, Toulouse. 25 janvier, Perpignan. 29 janvier, Villeparisis. Le 8 février. À Clermont-Ferrand, le 17 mars, à Rennes, puis Bordeaux le 21 mars, 31 mars et 1er avril, c'est pas une vanne, à Lille, le 7 avril à Marseille et le 9 avril à Nîmes. Ça s'appelle le spectacle familial. Nous, on est ravis de l'accueillir.
Ah là là.
C'est pas le cas de Morgane Gadignan. Parce qu'elle ne vous aime pas, Mathieu.
Ah, ça fait plaisir à dire. Mathieu Madénian, je ne vous aime pas. Enfin, je ne t'aime pas parce qu'on se connaît, donc je ne vais pas te vous voyer. Ça serait extrêmement malhonnête et surtout, ça serait une marque de respect. Et ça, c'est hors de question, mon grand. Avec Mathieu, on a beaucoup joué ensemble dans les Comedy Club. Tu m'as même fait l'amitié de me laisser faire des premières parties de ton spectacle quand tu jouais au théâtre de l'œuvre. C'était bien. Hein. Tu me faisais croire que j'avais du talent. Je te faisais croire que je venais pour autre chose que de voler les paquets de gâteaux dans ta loge. C'était l'âge d'or. Non, franchement, si vous aviez vu ça, les amis, une loge, j'ai jamais vu un truc comme ça. Avec autant de bouffe, il aurait joué sur un état laryngiste que c'était pareil. Et regardez comme il est beau maintenant que tous les gâteaux de sa loge sont dans mes cuisses. Mais j'ai quand même appris des choses en lisant ta biographie. Bon, naissance à Perpignan, ça je pense que n'importe quel humain doté de l'ouïe et de la capacité à être agacé par un accent pénible peut s'en rendre compte. J'ai découvert qu'en 2017, t'as sorti un livre qui s'appelle « Allez tous vous faire enculer ». C'est le titre du livre. Hein. Je suis pas en train de craquer en direct 3 semaines avant les vacances. C'est pas que je le pense pas, attention. J'ai prévu un craquage nerveux en live devant vous tous. mais plutôt vers mars. Mais j'adore le titre du livre, c'est l'évolution naturelle du titre de ma chronique, parce que Nagui, il annonce toujours ça avec du sourire dans la voix, quel que soit l'invité, hein. Et figurez-vous, Saddam Hussein, que Morgane Cadignan ne vous aime pas. Oh, oh, oh. Après, à voir avec Mathieu pour les droits et la direction pour l'idée, mais je pense qu'en titre de chronique, ça serait plus franc de reprendre ton titre. On va continuer à parler de votre film, hein, mais pour l'instant, Morgane Cadignan vous propose d'aller vous faire enculer. Oui, Romain Duris, allez vous faire enculer, parce que j'ai vu votre film. Franchement, ça serait un peu violent et surprenant à la fois, comme une sodomie, finalement, tout se recoupe. Jeudi. Aujourd'hui, Mathieu, tu viens nous parler de ton spectacle, un spectacle familial qui a pour thème la famille. Et j'espère que les vannes sont plus originales que le titre, parce que sinon, ça va être long. Tu pars du principe que la famille, on se construit autour ou en opposition, mais que c'est quelque chose de commun à tous, sauf au fameux Rémi sans famille qui doit être dans ta salle en comprenant que la moitié des blagues. C'est vrai que la famille, c'est un sujet infini, c'est quand même particulier, c'est gens que t'es un peu obligé d'aimer et que tu commences vraiment à aimer le jour où tu te forces plus. Moi, ma mère, ça se passe vachement mieux depuis que je me suis détendue de toute cette obligation familiale là. Bah franchement, on est devenu hyper proche, je la considère quasiment comme ma mère. Là, on approche de Noël en plus. Avec le Covid, c'est un peu le premier vrai Noël depuis 2 ans, donc on va pouvoir enfin avoir de vraies embrouilles, quoi. Oh, en plus, c'est une année présidentielle, ça va être super. J'en avais marre, moi, de m'embrouiller sur le vaccin. On va pouvoir enfin s'engueuler sur qui est d'extrême droite. J'ai hâte d'arriver toute guirette avec 400 balles de tasse personnalisées à offrir aux gens, puis finir 5 heures après à fumer une clope au fond du jardin en appelant Leïla et en réalisant à peine que je viens de me faire traiter de sale bobo gauchias par ma grand-mère parce que j'ai pas pris de foie gras. Ah là, puis cette année, je le sens tellement bien. 31 ans, pas d'enfant. Je sens que ça va être mon Noël. Vu qu'elle m'a déjà dit, bon, bah, j'imagine que tu viens seule. Ça part extrêmement sereinement. En plus, en Guadeloupe, l'ambiance est vraiment réjouissante. Il y a aucune raison que ça se passe mal. Mathieu, je crois que je vais m'incruster dans ta famille. Franchement, ils ont l'air sympas. Madénian, Cadignan, on a le même humour. On a les mêmes syllabes. Donc, honnêtement, ça devrait être de bonnes fêtes.
Bravo, merci. Et Morgane est sur scène du jeudi au samedi au Métropole Théâtre à Paris à 20h.
Parfait. Quelle audace. Et d'ailleurs, dans le livre où j'avais la chance d'être, d'être cité.
Mais j'étais venu ici faire la promo de ce livre-là.
Mais j'avais quitté le plateau. C'était de dire, il faudrait que j'aie au moins la décence d'avoir un nom de famille.
Oui, c'est ça. Nagui, ouais. C'est quoi?
Mais, c'est mon prénom.
C'est Nagui. C'est comme Jennifer. D'accord.
Non,
Louane. C'est comme Guy Georges.
Non.
Non, c'est lui.
Oui, c'est vrai.
C'est le double.
Ouais. Pardon ?
T'as un nom de famille.
J'ai un nom de famille, oui. Moi, tu vois, c'est l'inverse. C'est pas...
Nagui Durand. C'est pour...
La déception.
C'était par respect, pour mes parents que je ne voulais pas mettre mon nom de famille, parce qu'ils étaient profs et que d'un coup, faire le con à la radio, je m'attendais à ce qu'ils en subissent les conséquences en étant prof.
Ah, genre, d'accord. Et donc, t'as gardé que ça.
J'ai pris que le prénom parce qu'il était suffisamment bizarre, si tu veux.
Bah, Nagui Boutin.
Jusqu'à ce qu'à Europe 1, on me dise non, mais Nagui, ça fait trop. Il faudrait que vous trouviez un prénom.
Christian.
Ça fait trop quoi? Non, mais Nagui, ça fait. Non, il m'avait proposé Christophe. Il m'a dit Christophe Nagui, si vous voulez.
Christophe Nagui.
Je n'ai pas proposé Arthur, mais c'était déjà pris.
Je te jure. Je te jure.
Corinne Nagui.
Un spectacle familial. Pourquoi vous faites la tête? Pourquoi vous êtes triste? Le côté droupi. Le côté droupi. Non, mais.
Parce que la famille.
Non, oui, il a une réunion de famille.
Parce que on s'était dit.
C'est ça.
Oui, c'est ça. C'était que tout le monde fait la teuf et.
C'est le gâteau d'anniversaire. La photo est prise au moment de votre anniversaire pour l'affiche.
C'est ça.
Et vous faites la tête parce qu'on on vous tire par
la chemise. Je trouvais ça marrant. Mais ça fait même affiche de film.
Ça fait aidez-moi.
Aidez-moi, ouais.
Ouais, il y a un petit côté psychanalytique aussi, un peu à la Woody Allen. Est-ce que le spectacle évolue avec au milieu de toutes ces dates dont j'ai parlé, que je rappellerai tout à l'heure, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Perpignan, Clermont-Ferrand, Rennes, Lille, jouer à domicile d'ailleurs.
Tout à l'heure chez Nagui, c'est très très proche.
Non, parce que là, je vais pas donner précisément les dates.
Oui, il dit les villes. Après, il dit les dates au hasard. Ouais. Le 22, le 16 et le 14.
Débrouillez-vous.
Tu dis c'est le tiercé. Non, c'est les dates de Madénian.
Allez tous.
Voir Mathieu Madénian.
Calme-toi, Christophe.
Ce qui revient un peu au même. Non mais blague à part, est-ce que d'avoir une famille qui réagisse, qui vous parle peut-être de l'actualité, qui vous parle de ce qu'ils ont vu au cinéma, en concert ou à la télé, ça vous donne des idées, ça vous rafraîchit peut-être certaines choses pour
le spectacle, le spectacle, il évolue tout le temps. Enfin, je pense que c'est le cas de toutes les gens autour de cette table. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce métier pour faire un spectacle d'une heure et ou d'une heure et demie et le garder pendant 22 ans. Moi, je sais que comme je suis sur scène tous les soirs, ben, avec ce qui se passe justement en plus dans l'actu, tu peux tout rattacher à la famille. Donc, là, c'est sûr que oui, oui, le spectacle, il évolue. J'enlève des trucs, je rajoute des trucs, évidemment.
Ouais. Et de toute façon, c'est un métier de voleur. Enfin, voleur dans le sens où on prend à chaque fois.
Tu parlais de copie comique.
Tu prends tout ce qui t'arrive dans ta vie. Exactement, ouais. Et moi, ouais. ma famille évolue, les gens autour de moi évoluent, donc par définition, j'en parle.
Il y en a qui ont poussé la notion un peu loin.
C'est ça. Voilà. Est-ce que le fait d'être dans une année électorale va amener des sujets plus politiques? Parce que j'imagine que aussi la politique fait partie des discussions que l'on peut avoir à table à la maison.
Oui, oui. Bah, évidemment, je parle de Zemmour sur scène, je parle de la fin du monde qui arrive dans quelques années là.
Même chose.
Pareil,
Je parle de. Non, mais c'est vrai. Je parle de tout ça. Je parle de des anti-vax, je parle de tout ça sur scène, bien sûr. Évidemment, ça fait partie de.
Mais est-ce que là, il n'y a pas un risque de couper la salle en deux, en trois, en quatre? C'est-à-dire que d'un moment où on vient, en effet, on parle de papa, maman, les frères et sœurs, on se dit, ok, c'est de la vanne, il y a beaucoup d'autodérision, vous moquez beaucoup de vous, et d'un coup, de se moquer d'un homme politique, quel qu'il soit, ou d'une femme politique de quelque bord que ce soit, là, il peut y avoir quelqu'un dans la salle qui fait, ah ouais, non, mais là, je suis plus d'accord.
Ben c'est, est-ce que les gens viennent sur scène pour être d'accord avec toi? C'est pas le but. Les gens, ils viennent sur scène pour écouter quelqu'un. Moi, je monte sur scène pour donner mon avis. Si les gens sont pas d'accord, tant pis. Après, mon avis, il se doit d'être marrant, un peu malin et assumé. C'est juste ça. Après, si les gens sont pas d'accord, tant pis.
La malice, c'est quoi? C'est de faire passer quand même des valeurs, des messages dans ce que vous voulez porter.
Ah ben, oui. Ouais. Sinon, on fait pas ce métier juste pour être. À vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Moi, je fais pas ce métier pour. Ouais, c'est.
C'est Jérôme.
C'est Jérôme. Putain, merde, tu m'as piqué, enfoiré. Oh, j'avais plus le nom. T'es bon, hein.
Avec lui.
Non, mais elle est belle cette chanson. Vous avez vu le clip de cette chanson? Il est marrant. Regarde le clip. Non, mais oui, je monte sur scène. Évidemment, c'est pour dire mon avis. Il y a des trucs qui m'énervent profondément. Et il n'y a rien de. Comme moteur de comédie, l'énervement, il n'y a rien de mieux. Donc, il y a des choses qui m'énervent vraiment. Et quand je tiens à les dire.
Oui, et puis du moment que c'est drôle, peu importe.
Oui, voilà. Ouais, ou... ouais, ouais.
Comment mettre un ordre? Comment raconter une histoire? Parce que vous êtes dans le, c'est le principe du stand-up, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondu au noir, genre fin du sketch, applaudissements. Vous n'incarnez pas des personnages. Vous êtes vraiment en stand-up, c'est-à-dire avec le micro à fil. Il faut qu'il y ait un fil.
Ou pas. Oui, des fois il y a des fils, des fois il y a
non,
pas des fils.
Non, j'ai l'impression qu'il y a un côté mais dans les
fils.
Mais
le fil, je m'en sers des fois dans le jeu. Donc quand il y a
c'est un accessoire.
C'est comme un pied de micro ou un tabouret. Donc des fois t'as besoin du tabouret parce que tu fais un truc avec ton tabouret ou ton pied de micro. Mais ça dépend en fait.
D'accord. Ouais. Et alors comment ordonner, comment raconter, comment être cohérent dans l'histoire pour qu'il y ait un début, un milieu et une fin.
C'est comme une pelote de laine qu'on jette. Et il faut qu'elle roule de manière naturelle et que les gens ne voient pas comment tu passes d'un sujet à l'autre, que tout soit naturel. Voilà. Donc c'est juste ça le travail, c'est de trouver, de faire des transitions qui te permettent de passer de ta petite sœur à Zemmour sans que ça se voit. Voilà.
Donc
c'est la fluidité, quoi. Mais ça vient tout seul parce que moi Zemmour, j'ai eu envie d'en parler par rapport à un truc qu'on m'a dit, donc je l'ai rattaché au spectacle. C'est les anti-vax, c'est pareil, c'est par rapport à un chauffeur de taxi. Donc en fait ça vient tout seul. C'est pas des j'ai une théorie sur ça, je vais vous la dire. C'est juste une histoire qui m'est arrivée sur que ce soit Zemmour, les anti-vax, la fin du monde, machin. Et hop, ça me permet d'en parler.
Vous avez quoi sur Zemmour?
Rien. J'écoute les gens autour de moi, mais quand je le comment dire, le sort qu'on fait à certains humoristes qui dérapent sur les réseaux sociaux, qui deviennent des ennemis publics numéro 1 en France, et quand tu vois que certains hommes politiques avec des casiers judiciaires, on parle de casiers judiciaires, eh bien parlent encore et que tout le monde trouve ça normal, je trouve ça pas juste. Je trouve ça qu'il y a vraiment deux poids deux mesures assez incroyable.
Ouais, ça c'est le propre des réseaux sociaux où il y a un tribunal qui est permanent.
Ouais, mais on accepte certaines choses des hommes et des femmes politiques.
Mais pas
déjà quand tu as un casier judiciaire, je trouve déjà que tu devrais arrêter de parler.
Mathieu, c'est pas accepté par tout le monde ce qu'on dise. Là, tu parles de Zemmour. Apparemment, et il est décrié chaque fois qu'il dit quelque chose aussi sur les réseaux sociaux.
Il a parlé, il a se présenté.
Oui.
Je ne parle pas que de ça, je parle de Nicolas Sarkozy, deux fois condamné à un an de prison ferme, qui continue à me parler.
Non, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il n'y a pas que les humoristes qui passent au tribunal des réseaux sociaux.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, je parle pour nous autour de la table, je trouve qu'on est vraiment sous les feux des projecteurs dès qu'on dit un truc, en tout cas.
Toute personne qui exprime une opinion qui ne plaît pas à la majorité,
majorité ou qui prend une position se fait déchirer
surtout
par le
toute personne qui est connue.
Connue. Ouais. Se fait déchirer par le tribunal, par des anonymes en plus. C'est-à-dire que là, t'as des pseudos qui apparaissent. Et c'est même assez drôle de voir. Je sais pas si c'est un exercice que tu fais, mais moi, de temps en temps, à part retweeter les gens extrêmement violents à mon égard, voire menaçants de mort et ainsi de suite.
Enfin, donc, tu mérites aussi.
Je retweet. Après, tu vas voir le compte, tu vois qu'il a été créé une semaine avant et qu'il a un abonné. Quoi.
Et moi, j'aime bien discuter avec eux quand j'ai des insultes, des trucs bien faits. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu discutes, le mec perd ses.
Ça redescend,
mais tout de suite.
Ouais, c'est ça.
Ça il dit à la fin, s'il dit pas, je vous aime beaucoup.
Mais il dit, ah, mais en tout cas, merci de m'avoir répondu.
Moi, j'ai déjà eu une menace de mort avec un couteau, il a fini par dire bisous. Quand je lui ai répondu.
Ah oui. Tu te souviens? C'est incroyable, ouais. Ça. Non, mais tu vois, c'est ça qui est fou.
Mais vous y référence à quels humoristes? C'est pour des mauvaises blagues? C'est pourquoi?
Non, c'est, en général, c'est que je vois la difficulté de notre travail maintenant. Notre boulot, c'est, on est des équilibristes. On est sur un fil sans arrêt.
C'est le fameux, on peut plus rire de tout.
Ouais, on va pas commencer à se lancer dans ce débat-là, mais c'est vrai que et on a le droit de pas être marrant. C'est le danger, c'est ça. Oui, c'est même pas un danger, on a le droit de se planter.
Ouais, c'est mon credo, ça.
C'est juste des blagues. C'est juste des blagues. Non, mais c'est vrai. C'est juste des blagues. Et c'est un métier qui est comme
ça. Prends-nous à contre-pied, sois drôle un jour, fais un truc.
Ouais, c'est des blagues, mais d'autres vous diront, bah ouais, mais on peut pas en rire.
Ouais.
Bah, oui, non, mais ce qui veut dire, je pense que c'est un peu cruel de condamner des carrières où il y a eu 1 million de blagues marrantes pour une blague qui était un test et qui passe mal.
Moi, ouais, qui a été fameux.
Mais vous pensez à qui? Excusez-moi, j'arrive pas à comprendre qui a eu sa carrière cramée.
Mais quand on monte sur scène, on a ce truc-là de se dire, hey, est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est bien de le dire?
Je sais que vous avez pris position pour soutenir Gad Elmaleh en disant, il a vu le nombre de bonnes vannes qu'il a
oui,
pu,
oui,
qu'il a
l'histoire,
pu faire.
L'histoire de
copie comique.
Oui, bien sûr. Oui, le mec, tu peux pas condamner la carrière d'un truc, c'est totalement injuste.
Voilà, c'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Après, on pense qu'on veut de Gad Elmaleh, mais le mec, il a fait combien, c'est une dizaine de spectacles, machin. D'un coup, tu fais une compilation. Ok, oui, mais le mec, il s'est excusé. Allez, vas-y, passe à autre chose. On peut pas. Et le type, moi, j'ai vu Gad, il vient quelquefois au Paname faire son nouveau spectacle. Je suis ni pro ni anti. Juste, je suis un mec qui fait de l'humour et qui regarde les gens. Il met une claque à tout le monde.
Non, je crois que ceux à qui on en voulait, c'est ceux qui ont dit, mais jamais de la vie. Voilà. Après, du moment que tu dises, oui, bon, ok, d'accord, je m'excuse. Plus jamais.
Gad Elmaleh était très clair là-dessus.
Non, mais il y en a plein qui ont dit, mais jamais de la vie, vous imaginez ça. Enfin, j'ai rien piqué à personne. Alors que, oui, les parallèles étaient un petit peu gênants.
Le spectacle, le nouveau spectacle familial de Mathieu Madénian en tournée, sauf que cette tournée, elle a commencé déjà depuis
un bon
temps. Hein.
Oh là là, moi j'ai commencé à faire la promo du spectacle, juste avant le Covid en fait. J'ai joué que 2 mois à Paris, après on s'est arrêté, et donc c'est compliqué.
C'était au Théâtre du Rond-Point.
C'était au Théâtre du Rond-Point, après au Théâtre de l'Œuvre, après il y a eu le Covid, et après on a fait la promo pour tout ça, et puis après pendant un an et demi tout.
Est-ce qu'il y a une salle parisienne par laquelle vous allez repasser en 22?
On espère, on verra. Mais c'est tellement dur en ce moment, je me mets à la place. Je parle pour moi. Moi, je suis un privilégié parce que je suis un peu connu et je remplis un peu mes salles. Mais je me mets juste à la place des nouveaux comiques, des nouveaux comédiens et comédiennes, stand-upers et stand-upers. Mais ça doit être super dur pour eux en ce moment. Nous, moi, je suis un privilégié. J'ai pas le droit de me plaindre. C'est pour ça que je suis très heureux de faire ces dates. Si c'est pas plein, c'est pas grave. Je tourne encore, je gagne ma vie, je suis heureux. Mais je me mets juste à la place des nouveaux qui arrivent. Mon Dieu, ça va être compliqué.
En tout cas, c'est extrêmement drôle. C'est signé Mathieu Madénian. On va continuer à en parler avec lui. Tiens, à propos de jeunes qui démarrent, mais pour lequel ça va bien, voici Pat Mirabel.
Ça va très bien.
Ça va plutôt bien.
Je veux dire, il fait des rois arrière. Hein.
Bonjour Christophe, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.
Salut.
Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Oui, tellement.
Eh bien écoutez, moi aussi ça va. On devait recevoir Didier Drogba ce matin qui a malheureusement annulé sa venue et finalement on reçoit Mathieu Madénian.
Ah, ça n'est pas
Oui, Mathieu, tu es supporter de l'OM, tu m'en voudras pas si je dis qu'on a un peu perdu au change, puisque là, si dans le studio il y a quelqu'un qui siffle un corner, je suis pas sûr que tu sois un aussi bon atout offensif.
C'est clair.
J'étais vu jouer au foot une fois et je crois qu'avoir la même lettre comme initiale, c'est pas forcément gage de qualité. Je pensais qu'après ZZ il y aurait MM et en fait non, je crois qu'on est plus proche de Marvin Martin que de Zinedine Zidane. Comme quoi on peut avoir 3 très bons spectacles et pas forcément savoir quel est son meilleur pied au foot. D'autant plus que je viens de vous dire que ça va, mais la vérité c'est que ça allait jusqu'à ce que ce week-end j'ai des amis qui me proposent de sortir dans un bar rue Princesse qui depuis cette sortie d'ailleurs ne sont plus des amis, hein, c'est devenu des connaissances. Déjà j'ai découvert que rue Princesse il y avait de tout sauf des princesses. Ouais, voire même je pense que la notion de rue laisse encore à désirer. Ça ressemble plus à un long couloir vers les ténèbres. Vraiment, je pense que le chemin le plus court vers l'enfer, tu prends la 4 jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, puis après tu marches jusqu'à rue Princesse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une rue où il y a que des bars et des gens bourrés. Et souvent d'ailleurs, si tu observes bien, ça va ensemble, les deux. Il y a en général beaucoup moins de gens bourrés devant Naturalia. Parce que c'est beaucoup plus dur de devenir ivre en mangeant du manioc. Ouais, vraiment, ce week-end, je suis rentré dans un bar d'une sordidité rarement vue au préalable. Je crois que c'est pas un vigile qui m'a ouvert la porte, c'est directement Lucifer, qui apparemment est en CDI là-bas. Heureusement que j'étais vacciné, d'ailleurs, pour aller dans ce bar. Pas contre le Covid, mais contre la fièvre jaune et le paludisme, puisque c'est le seul bar de Paris où tu rentres avec un pass sanitaire et tu ressors avec le chikungunya. Il y avait beaucoup de monde en plus dans ce bar, mais c'est ça qui m'a un peu dérangé. À la table, juste à côté de moi, il y avait deux MST qui discutaient tranquillement. Et j'ai pu un peu écouter leur conversation. D'ailleurs, elles disaient, alors comme ça, tu t'appelles Chlamydia. Mais c'est un nom très charmant comme prénom, dis donc. Le problème en plus, c'est que moi, je bois pas d'alcool dans la vie. Ah, et là, je vois que Leïla se dit, mais quel est ce drôle d'individu?
Ouais. À chaque fois.
Et je crois que parfois, ça perturbe un peu les gens autour, parce que j'ai demandé au barman une grenadine, et je crois qu'il avait aucune idée de quoi on parlait. Je pense que c'était la première fois qu'il entendait le mot. Il m'a regardé comme si c'était moi le bizarre de la soirée, alors que juste à côté, il y a quelqu'un qui buvait des shots en feu. J'ai même vu des gens jouer au beer pong dans ce bar. Tu sais, c'est un jeu où tu dois essayer de faire rentrer une balle de ping-pong dans un verre de bière, et quand tu y arrives, apparemment, tu cries. Puisque là, j'ai mon tympan gauche qui est parti en Erasmus et le droit ne comprend plus que le Moldave. Je comprends pas trop qui a eu l'idée de mixer ces deux activités, d'ailleurs, ping-pong et bière, parce que si ça se trouve dans des soirées, bientôt il y a des gens qui joueront à verre de vin foot. Il faudra envoyer des coups francs 35 mètres dans un verre de chardonnay, ça n'aura plus de sens. Surtout, je pense qu'il faut pas trop considérer l'alcool comme un jeu, moi, parce que parfois c'est dangereux. Moi, j'ai passé la soirée avec quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu peux conduire en rentrant, s'il te plaît, parce que je crois que j'ai un peu trop bu ?» Ce qui aurait été une décision responsable si on n'était pas venu à pied. Cette soirée, ça m'a fait prendre conscience d'ailleurs que j'étais devenu un peu vieux, parce que je crois que j'ai clairement les plaisirs de quelqu'un qui perd ses cheveux en ce moment. Moi, j'aime pas la bière, j'aime la verveine en ce moment. Oui. Je veux qu'il y ait deux marmottes sur une boîte de tisane qui me regardent et qui me disent « Viens, on va se coucher, il est déjà 19h. » J'irais même à dire que j'en ai marre des gens qui te proposent tout le temps de sortir. Du coup, je vais lancer un autre mouvement bientôt, tenez-vous prêts. Moi, je vais proposer aux gens de rentrer. Tous les week-ends, je vais leur dire « Viens, vendredi soir, on rentre. Ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré là. Il y a un nouveau bar qui vient d'ouvrir, j'ai très envie de pas y aller. » Voilà, tout ça pour vous dire, Didier Drogba, merci d'être venu ce matin. Et au même titre qu'un supporter de l'OM, les soirées de samedi soir, quelquefois, ça me déçoit. Merci beaucoup.
Dans quelques instants, Juliette Allais, psychopraticienne et auteure de Comment guérir de sa famille et se libérer et guérir des blessures familiales sera notre invitée. J'imagine que vous aurez plein de questions à lui poser, Mathieu.
Ah oui.
Mais pour l'instant.
Ça va devenir un sketch.
Mathieu Madénian, la musique qu'il écoute. Alors, déjà, la musique qu'il y a sur scène, il y a des références. Simba. Il chante, mais c'est même vous qui chantez ce Roi Lion. Il va aussi sur Vianney au passage.
Il mérite.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui.
Mais la musique que vous écoutez en 2001, c'était Mano Solo.
Pas savoir pourquoi, alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé.
Quelle image vous avez en écoutant cette chanson?
Je trouve que c'est un des
20 ans en arrière.
Ouais, mais je l'écoute encore. Hein, mais quand je suis monté à Paris, j'écoutais Mano Solo parce que c'est un chanteur. C'était le fils de Cabu qui est mort du SIDA il y a quelques années. Et ouais, je vais pas faire. C'est mon chanteur préféré, mais je trouve ce mec c'est un génie en fait, tout simplement. Et c'est un mec qui chantait Paris et qui parlait de Paris comme personne. Et t'as qu'à écouter ça. T'as entendu l'accordéon, t'as sa voix éraillée. J'ai ce mec là. J'ai eu un coup de foot pour ce type là. Et quand je suis monté à Paris, alors c'est pas la chose la plus gay que tu peux faire quand tu montes à Paris, mais c'est vrai. Mais quand je vais me balader au Père Lachaise, je vais toujours voir sa tombe comme ça. Et j'écoute Mano Solo sur la tombe de Mano. Mmh. Voilà. Quand je bossais chez Charlie, que j'ai eu la chance de rencontrer Cabu, le premier truc que je lui ai dit, c'est parle-moi de ton fils. Voilà.
Vous aimiez Mano Solo avant de connaître Cabu.
Ouais. Et le premier truc, quand j'ai raconté Cabu chez Charlie, je lui ai dit parle-moi de Mano, vas-y, parle-moi de ton fils.
On est en 2001, Mathieu. Vous vous êtes inscrit au barreau de Marseille en tant qu'avocat spécialiste en criminologie, je crois.
Ouais.
Et vous annoncez aux parents, puisqu'on parle de la famille, que vous décidez d'aller à Paris, de tenter votre chance pour devenir comédien, pour faire de la scène,
ouais,
en tout cas, pour tourner.
Ouais.
Réaction parentale?
Mais en fait, il pensait que c'était... moi, j'ai fait beaucoup d'années d'études, je crois que 7 ou 8, et je me suis accordé juste une année sabbatique. En fait, c'était ça. Il y en a qui font le tour du monde. Mais moi, je suis monté à Paris pour monter, faire des conneries dans les bars. Je me suis accordé un an. Et j'ai eu la chance, encore un accident heureux, d'être figurant et comédien dans Un gars, une fille dès les premiers mois. Mmh. Donc j'ai pu payer mon loyer et la question s'est pas posée. Donc au départ, mes parents.
Enfin, ils la disent, chance, pardon, il faut la provoquer, la chance, il faut la créer. Elle est,
ouais, mais.
Il n'y a pas quelqu'un qui vient frapper à votre porte comme ça sans vous connaître en disant viens tourner dans un.
Oui,
un
film. Oui, ben ouais. Alors est-ce que je l'ai provoqué? Oui, j'ai tapé à la porte ce jour-là où il y avait marqué casting taxi et j'ai dit vas-y, est-ce que je peux faire le taxi parce que j'ai un accent, est-ce que je peux passer le casting? Et j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont pris et ça s'est bien passé avec Jean et Alexandra, et donc je faisais toutes les voix pendant 4-5 ans.
Mais sauf que quand on a fait 7-8 ans d'études.
Ouais, y a... mais non, mais c'est pas un gâchis.
Il en restait combien?
J'ai pas dit que c'était un gâchis, mais les parents, forcément, ils vous voient.
Ça a été compliqué pendant un ou deux ans, ça a été compliqué.
Vous auriez pu être avocat.
Ouais, bien sûr. Et je voulais être criminologue. Moi, je suis passionné par les tueurs en série, par le phénomène criminel. Et tous mes potes, ils sont juges, procureurs, avocats maintenant.
Ça sert.
J'ai lu ton dossier, tu vas t'en sortir. et donc voilà. Donc.
Le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est la tchatch? C'est être capable?
Le travail. Il n'y a que ça. Ce métier, c'est que du taf. Le talent, machin. Le talent, ça dure quelques mois.
C'est de l'expression orale, être avocat aussi.
Oui,
c'est comme...
oui, mais c'est du taf, c'est du boulot. Moi, mes études m'ont appris à bosser, à travailler, d'accord, à écrire. Mmh. Et c'est une espèce de d'habitude que j'ai, c'est de travailler, quoi. Moi, les gens talentueux, il y en a, mais j'ai vu beaucoup de gens talentueux qui ont disparu. Mmh. Et je vois beaucoup de gens moins talentueux, mais c'est des bosseurs. Et ça marche.
De chauffeur de taxi dans Un gars, une fille, à chauffeur de taxi pour Sophie Marceau, c'est ce qui s'est passé.
Sans pas la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues, les bordels, où c'est que j'ai mis mon flingue.
Renault est en effet encore chauffeur de taxi pour...
Mais ouais, alors Renault, c'était parce que j'ai commencé à Charlie Hebdo à la même époque où j'ai fait ce film avec Sophie Marceau. Et j'ai rencontré Charb à l'époque, qui était le... Bref, c'était Charb, quoi. Il m'avait fait écouter cette chanson-là de Renaud, Où est-ce que j'ai mis mon flingue, qui est incroyable. Et voilà. Et Sophie Marceau.
Qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui.
Non, ce serait compliqué. Ça serait compliqué.
Tu vois, ouais. On parlait tout à l'heure des vannes, mais là, on est dans la chanson, on peut plus.
Est-ce qu'il la chante encore sur scène? Je ne sais pas. Mais non, voilà. Mais et Sophie Marceau, ouais, j'ai fait un film avec elle et Patrick Bruel, et j'avais un mot à dire à Sophie Marceau, c'est salope. et donc je me retrouve en face de Sophie Marceau, elle me fait alors vas-y.
On répète.
Et là, elle me dit vas-y, envoie. Et là, j'ai Sophie Marceau, j'ai salope. Mais non, vas-y, un peu plus
crois-le.
Salope. Ouais, et là, je me trouve pendant 10 minutes à insulter Sophie Marceau. Et il y avait sa petite fille qui nous regardait.
La pauvre.
Oh, ça n'avait aucun sens.
Et la rencontre avec Charb, vous l'avez évoqué, c'est Patrick Peloux qui vous introduit.
Ouais.
Vous vous retrouvez dans un café.
On est dans un restaurant, je ne sais plus lequel, dans Saint-Germain. On est tous les trois. Et il était venu voir mon premier spectacle au Point Virgule. Et là, il me dit, est-ce que tu veux écrire pour Charlie? Il me dit, par contre, je pourrais pas te payer parce que, de toute façon, le journal va s'arrêter. On doit faire un appel de fonds et tout. Il me dit, je te paierai en bouteille de vin. Je dis, vas-y, bingo. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait encore son garde du corps. Et cette image que j'ai de Charb, c'est, on est un peu ivre et il prend un Vélib. Et sans prévenir son garde du corps, et il se barre comme ça. Et il se voit son garde du corps courir en essayant de le rattraper. Et lui en train de vaciller sur le. Vous voyez ça, cette image? Ouais, c'était Charb, c'était ça en fait. Ouais.
Il n'y avait pas Benabar dans la bande, parce que tout ça, c'est des.
Oui, c'est la même bande. Ouais, exact. Oui. C'était la bande.
En 2018, est-ce que je vais trouver? Non, c'est ça, en 2018, ouais. Mathieu Badenion, vous écoutiez Charles Élie Couture.
On buvait du pastis comme si c'était.
Bon. T'es hyper mélancolique en fait.
C'est une des plus belles chansons.
Il n'y a que de l'alcool, hein, au sein du passif.
Ça aide à être mélancolique. Hein,
mais il parle des souvenirs, je ne sais plus ce qu'il dit. Sur la fin de la chanson, il y a une phrase, je ne vais pas la dire parce que je vais la bouffer. Mais il parle du temps qui passe et de la vie. Et j'écoutais ça quand j'écrivais le spectacle, un spectacle familial. Et un jour, je monte sur scène au rond-point et qui y a dans la salle? Charlie Élie Couture.
Mais non.
Ouais. Et j'étais là, je suis oh là là.
À un moment, il faut les prendre les signes.
Mais c'est l'avantage de ce métier. Le seul avantage de ce métier, c'est que tu manges et tu bois à l'œil. On t'invite souvent à boire des verres. Et tu rencontres des gens que t'as admirés ou que t'as aimés avant d'être un peu connus.
Est-ce que vous aimez savoir qui est dans la salle avant de commencer? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez le trac de savoir qu'un tel ou un tel est présent ce soir?
Mon attaché de presse ne me dit pas quand il y a des journalistes parce qu'elle a peur. Elle a peur que je parle trop. que j'ouvre ma gueule en me disant voilà, parce qu'une fois il y avait des journalistes dans la salle et je voyais une nana faire son papier, j'ai pris le papier et je lui ai corrigé le papier.
Mais non.
Et ouais, et donc voilà. Mais oui, quand il y a des, moi quand il y a des gens que j'aime beaucoup qui viennent, des potes. Ou des potes, ça me permet de faire leur promo aussi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Mais quand j'ai Jonas qui vient, j'aime bien savoir qu'il y a Jonas dans la salle, parce que j'aime bien chanter. Donc je le dégoûte de ses propres chansons. Mais oui, il y a des gens. Il y a une fois, il y a Aznavour qui était là. Je voulais que je voulais savoir. D'ailleurs, ça servait à rien parce qu'il est venu à République tout seul avec son chauffeur. Et je me dis, vas-y, s'il y a un soir, il faut que ça marche, c'est ce soir-là. Et en fait, les gens sont heureux, se lèvent, bravo. Et je retourne dans ma loge, il arrive, je fais, vas-y, Aznavour m'a vu cartonner. Et là, il dit, bon, ça avait l'air bien, j'ai rien entendu parce que j'ai oublié mes appareils auditifs dans le taxi, mais je reviendrai. Tu viens, on va manger une omelette à côté. Et voilà, c'était ça.
Et vous avez choisi pour faire sa première partie au Zénith.
Oh non, le truc, l'histoire, c'est horrible.
C'est pour l'Arménie?
Non, en fait, ces deux producteurs, 4-5 mois après sa mort, viennent au Paname, on mange ensemble, et je les vois discuter, vas-y, dis-lui, toi. En fait, Charles, pour ses 90 ans, je sais plus, il voulait faire le record de Bercy à la suite. Et je dis, ah, c'est cool. Et il fallait une première partie. Et donc, on lui propose des chanteurs, il fait, non, je veux le petit Arménien, là. Et les deux se regardent, ils font, l'humoriste là, Madénian, Mathieu, je veux Mathieu Madénian. Et les deux disent, on l'aime beaucoup, mais est-ce que c'est judicieux? Parce que ton public, il vient écouter Aznavour, l'autre il monte sur scène, il fait le con et tout. Je veux Mathieu Madénian et sur l'affiche, je veux mettre en vedette américaine Mathieu Madénian. Il est mort 5 mois avant. Quel égoïste. C'est ça les Arméniens.
Pense
qu'à sa gueule.
On va parler de la famille avec Juliette Allais. Bonjour Juliette.
Bonjour Nadine.
Vous êtes psychopraticienne spécialisée en analyse transgénérationnelle, auteur de Comment guérir de sa famille, ce qui va très bien avec tout ce que raconte Mathieu Badédian sur scène.
Oui, je crois que c'est trop tard. Ouais, c'est
parce que la famille est une maladie.
Non, c'est plutôt un lieu où on peut tomber malade. Malade psychiquement et physiquement. Donc on pourrait dire que c'est le lieu de tous les dangers, en fait, oui.
Alors il y a évidemment famille je vous hais ou famille je vous aime d'ailleurs, fonction de des auteurs que l'on soutient ou que l'on cautionne, on aime ou pas Jean-Jacques Rousseau et autres. Est-ce que on garde des traces, des séquelles peut-être même, de sa famille toute sa vie? C'est-à-dire, sont vraiment des empreintes indélébiles?
Alors, elles sont là, elles sont présentes, et évidemment, elles sont très prégnantes, mais le but, c'est quand même de s'en affranchir, c'est de pouvoir s'accomplir, se débarrasser finalement de tout ce qu'il y a eu dans cette famille-là, à la place où on nous a mis, qu'on nous a assigné, pour pouvoir devenir vraiment qui on est et devenir libre, en fait.
Ouais, mais on reproduit souvent les schémas de l'éducation que l'on a suivi aussi.
C'est vrai.
C'est-à-dire que quand on était enfant, on subissait des remarques, voire des punitions en disant « mais un jour, je serai libre ». Et on se rend compte que quand on devient un parent, bah, finalement, on se dit « ça a plutôt bien marché ».
Est-ce que cette phrase « grandir, c'est trahir sa famille »
Ouais, moi je dis plutôt s'affranchir pour s'accomplir. C'est vrai qu'il y a un endroit où on doit grandir, quitter et vraiment se séparer de tous ces lieux d'emprise qu'on peut bien sûr toute sa vie continuer à nourrir, mais on n'est pas obligé. C'est ça la bonne nouvelle. On peut grandir, se séparer de sa famille et devenir libre de vivre ce qu'on a à vivre.
Les codes sur la famille sont toujours les mêmes aujourd'hui?
Non, quand même, ils ont un peu changé, c'est moins patriarcal, mais c'est tout autant pernicieux. Je veux dire, il y a vraiment une couche, il y a la couche émergée, et puis il y a tout ce qui se passe en dessous. Et ça, je pense que depuis des siècles, c'est toujours pareil. Alors, aujourd'hui, on fait semblant d'être un peu plus libre. Mais à Noël, par exemple, si vous saviez le nombre de gens qui flippent...
Ça parce s'appelle la nataphobie.
Ouais, parce qu'ils sont obligés d'aller passer Noël en famille. C'est incroyable, donc je me dis, ouais, il y a peut-être quelque chose qui a changé, mais pas tant que ça, en fait.
Et la place dans la fratrie aussi, c'est votre sœur que vous insultez carrément sur scène.
Mais que j'adore, hein.
Mais on a bien compris.
C'est parce que c'est une petite conne. Mais c'est comme ça, alors on l'appelle petite conne. Mais oui, bah bien sûr. Mais elle m'insulte aussi, donc de toute manière, c'est
Mathieu famille, nul, très bien.
Nous, les insultes, c'est, ça veut dire qu'on s'aime.
Mais la place dans la famille, c'est-à-dire être le petit dernier, donc le chouchou, ou alors être celui au milieu quand on y en a trois, bah celui qui est ni l'aîné, ni le petit, donc qui est celui qui est oublié. Tout ça sont des choses.
Les Jackson 5, on en parle, il faut 5 Jackson pour faire un Michael. Est-ce que tu connais le programme?
C'est à peine caricatural, je veux dire, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais en revanche, nous, notre travail, travail à tous, je pense que c'est de se débarrasser de ça et de ne pas rester à la place qui nous a été assignée. Ceci dit, les rivalités familiales, bien sûr qu'elles existent, elles continuent à proliférer.
Oui, mais elles aident aussi à se construire, non ? J'imagine.
Oui, mais à un moment, il faut en sortir. Et puis je pense qu'il faut aussi cesser d'incriminer la famille en disant « on est sous emprise ». En réalité, c'est la partie de nous qui est complice qui fait que c'est possible. Si on arrive à mettre sa famille à distance et à dire « écoutez, moi je suis libre, la bonne nouvelle c'est que je suis majeure, donc je suis libre de mes choix, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de décevoir mes parents, et c'est pas grave, ça va tuer personne, et en revanche, tout le monde va vivre beaucoup mieux ».
Je vais venir chez vous m'allonger sur le dick.
Et le cycle de la vie fait que on devient les parents de nos parents, c'est-à-dire qu'on avec l'âge avançant, on s'en occupe, on les aide à manger, on leur fait la toilette.
Ah bah là, vous allez loin là, mais vous allez carrément.
Oui. Ah mais je vais loin.
Oui, ça peut aller jusque là.
Évidemment. On peut les aider à mourir aussi.
Ouais, bah, exactement. Ouais. Mais on peut aussi. Alors ça dépend aussi des liens qu'on a eus, hein, qui sont plus ou moins bons. Mais je pense qu'il faut aussi savoir qu'on n'est pas obligé d'aimer ses parents. Je veux dire, tout ça se fait, cette histoire se fait, et elle continue si les liens ont été suffisamment bons. Sinon, on peut très bien décider de sortir et puis dire non.
Et de créer sa propre famille en devenant soi-même le parent.
On a le droit, oui.
Comment guérir de sa famille aux éditions Erol, ou se libérer et guérir des blessures familiales aux éditions J'ai lu, à suivre donc un rendez-vous entre Mathieu et Juliette. Merci beaucoup d'être venu à ce micro.
Merci, voici il faut votre livre.
Jérémy Crédville. Ah
tout ça. Ambiance.
Allez, ambiance.
Alors aujourd'hui, les amis, petite reprise de Niagara, mais avec une voix plus grave, ce sera Niagarou.
Niagarou.
Et pour rester dans le grave, on va parler de cinquième vague. Ce soir, on va se reprendre un suppo. Restriction à gogo pour sauver les hôpitaux. J'ai mis des guillemets à sauver. Hein. Le mec dénonce. Je crois que l'on a dû oublier qu'on les a fait crever, qu'on n'a toujours pas recruté. Allez, ambiance! 5, 6, 7, 8! C'est la cinquième vague. Ah ouh, cha-cha-cha! Revaccinons les vieux. Ah ouh, ah ouh! Troisième dose, troisième âge. Ah ouh, cha-cha-cha! Combien pour 2022? Oui, parce que c'est pas sûr que la troisième dose soit la dernière. C'est même sûr que ce sera pas la dernière. Le vaccin, c'est comme un ex que t'arrives pas trop à oublier, qui revient tous les 6 mois pour te remettre une cartouche. Et merde, j'en ai marre de cette ambiance, de ces taux d'incidence. On gère tout ça sans harmonie, parce qu'il y a pas deux pays qui gèrent la pandémie de la même manière. Bientôt, masqué de la tête aux pieds, c'est pas pour nous sauver, c'est pour être sûr qu'on vote en mai. Bon, c'est pas comme si on avait fait des clusters au municipal. Hein. Enfin bref. Allez, c'est la cinquième vague. Aou, tcha tcha tcha. Et je veux pas être niaiseux. Aou, aou. Mais les labos font des marges.
Aou, tcha tcha tcha.
Toi t'es sur les essieux.
Aou, aou.
Instant promo, je serai potentiellement en spectacle à Montreux la semaine prochaine. À Paris le 12 décembre, à Liège le 14, à Auray les 15 et 16, à Lille le 20. Non, mais je dis potentiellement parce que ces dates ont déjà été reportées 3 fois. Mon tout nouveau spectacle, il est déjà vieux. Mais bon, c'est la pandémie, tout le monde douille apparemment. Enfin, il n'y a jamais eu autant de ventes de super yachts. Le mec dénonce ces eaux-là. Et si on avait su vacciner les gens du monde entier plutôt que juste ceux des pays développés. Il fallait que je fasse rentrer ça dans moins de pieds. Eh bien,
titre.
Y aurait pas de cinquième vague.
Aou, tcha-tcha-tcha.
Ça serait merveilleux.
Aou, aou.
Dans tout ce cafouillage.
Aou, tcha-tcha-tcha.
Mais qui s'en sort le mieux?
Allez, avant-dernier refrain, toujours ambiance.
C'est la cinquième vague.
Aou, tcha-tcha-tcha.
Fais gaffe, André Rieux.
Aou, aou.
Reportez vos mariages.
Aou, tcha-tcha-tcha.
Fais ton Noël à deux. Allez! C'est la cinquième vague. Ouais.
Aou, tcha, tcha, tcha.
Et on ne surfe pas mieux.
Aou, aou.
Deux années de visage.
Aou, tcha, tcha, tcha.
Semi-caché en bleu.
Allez, bonne cinquième vague, les amis.
Merci. Jérémy Crédit.
Ah là là.
Mathieu Madinon est notre invité jusqu'à midi et demi. Et Tanguy Passureau, que vas-tu nous raconter après-midi?
Eh bien tiens, justement, je vais vous parler de Jean Castex, le seul mec qui a abandonné les gestes barrières au moment où tout le monde les reprenait. C'est un punk.
C'est vrai, on en parle après les infos de midi. La bande originale.
Oui, bonjour.
Avec Leïla Kadour-Boudeldi, Morgane Cadignan. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Paul Mirabel, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Monsieur Mathieu Madeleine. Oui. Mathieu Madignan en spectacle, j'allais dire en concert. Spectacle sur scène, en tout cas. Les 21 et 22 janvier, ça sera Toulouse. 25 janvier, Perpignan. 29 janvier, Villeparisis. 8 février, Clermont-Ferrand. Le 17 mars, à Rennes. Le 31 mars, à Lille. Est-ce que quand vous allez à Perpignan, qui est un peu joué à domicile, c'est quand même pas pareil?
Ouais, mais parce que là, je connais la moitié de la salle, donc.
Vraiment?
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais il paye, hein. Je peux te garantir, mon père, il regarde, qui rentre, et tout le monde paye. Et oui, 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 c'est agréable. Mais à la fin du spectacle, tu vas dormir chez toi. Donc tu vas pas à l'hôtel. C'est marrant, quoi.
Ouais, genre, votre chambre d'ado, elle est restée la même?
Mes parents, alors maintenant moi j'ai acheté un petit appartement au bord de la mer tranquille, mais ma chambre d'ado c'est un sanctuaire. C'est-à-dire il y a des photos de moi, j'ai 8 ans sur tous les murs, j'ai l'impression de rentrer dans la chambre d'un enfant qui a été enlevé.
Ils ont rien bougé,
c'est incroyable.
Le lit encore défait.
T'as deux types de parents, soit ta chambre elle ne touche rien, soit ça se transforme en salle de sport. Avec le clic-clac pourri là, tu sais.
Est-ce que le raconter sa famille, c'est évidemment se raconter soi, il y a toutes les névroses, comme si on avait l'impression d'ailleurs que tout ce qui vous rend ce que vous êtes aujourd'hui vient de papa, maman, votre sœur, les potes de Collioure, enfin bon.
Ah ben bien sûr, moi par exemple, je raconte que je suis amoureux, je suis avec quelqu'un, mais je suis pas quelqu'un de tactile, mais parce que mes parents n'étaient pas tactiles.
Vous n'aimez pas qu'elle vous prenne la main?
Ah mais parce que mon père, j'ai jamais vu mon père, moi c'est ma mère. Une fois, quand ma grand-mère est morte, la mère de ma mère, il lui a tapé sur l'épaule, il fait ça va. C'était juste ça. Donc ouais, moi je suis pas très tactile, mais ça vient parce que j'ai pas vu mes parents ou leurs amis tactiles, quoi. Voilà, c'est tout.
Mais dans la rue, vous ne prenez pas, vous lui racontez sur scène, vous prenez pas la main de votre fiancé.
Il y a une route, je vais pas tomber.
Sauf pour traverser, parce que comme elle a 14 ans, vous prenez la main pour l'aider à traverser.
Voilà.
Non,
elle a pas 14 ans.
J'exagère, mais vous dites qu'il y a une grosse différence d'âge.
Oui, elle a 30 ans, donc ça veut dire que quand elle aura 60 ans, je serai mort. en gros, c'est ça. Il faut se rendre compte de l'évidence. Mais c'est vrai que oui. Puis les surnoms là, j'ai l'impression qu'on change mon nom comme les esclaves, tu sais.
Donc, Matou.
C'est Matou.
Matou.
Bébé, Boubou, Babi, Bo. Ah, oh,
il y a beaucoup de
Dieu devant mes parents. Non, je dis fais pas ça.
Bientôt Pépé.
Pépé.
Ready.
Bientôt Pépé.
En spectacle, Mathieu Madignan avec ce stand-up et ce succès sur scène en tournée. On continue d'en parler jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastureau.
Allez, Tanguy.
Courage, Jean Castex, c'est un mercenaire le type. Il a le physique d'un acteur de la soupe aux choux, mais il se prend pour Iron Man. Ces 15 derniers jours, il a fait le beau. Il a vécu comme si on était revenu en 76 et qu'il jouait dans un Claude Sautet avec sa ribambelle de potes. Il a chopé le Covid, cet idiot. Alors que la semaine dernière, il était sans masque, cool Abdoul, à serrer des louches et à parler à 2 cm de la tête de tout le monde. Même à Ibiza, en soirée mousse, on est moins proche des gens. Ça s'est passé au ministère de l'Intérieur. On se tapait plus 80% de cas de Covid par jour. Mais Darmanin a quand même organisé une sauterie avec les maires des Hauts-de-France. Zéro masque, fenêtres fermées, tous en train de projeter plus de postillons que dans un concours de Glavio. Et à un moment, Darmanin a dit, il va y avoir une surprise. Avant MeToo, on apportait un gros gâteau et de là-dedans sortait une fille avec une queue de lapin qui disait, j'ai une belle envie de carotte. Mais là, la surprise, c'était Castex. Hein, et il a fait le show. Il a plus touché de gens qu'en 10 ans d'activité d'un salon de massage. Et c'est le même Gus qui, H24, vous dit, les gars, vous êtes relâchés au niveau des gestes barrières. Hein, c'est comme si Jackie et Michel faisaient à la demande du Vatican une vidéo sur les vertus de l'abstinence. 4 fois cas contact, Castex. Il est entré au Guinness Book. Et cette fois, il a attrapé le Covid. Mais pas par l'intermédiaire d'un de ses copains. Non, c'est sa fille de 11 ans, a-t-il dit, qui lui a refilé. Lui, il peut aller sniffer des peaux mortes sur un lépreux, il se passera rien. Hein, il rentre chez lui, fait un bisou à son chat, tac, en 2 heures, il a un premier bras qui tombe. Alors, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et mannequin pour Petit Bateau, a déclaré, et on peut tous avoir un moment d'écart, on est humain. Bah d'accord, mais enfin les autres humains, déjà à 80%, ils ont le masque au travail. Et si le but dans le fait de devenir Premier ministre, c'était rester un humain comme les autres gueux, bah franchement, il valait mieux faire un BTS. Hein. Donc, c'est l'affolement. Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, a supprimé de son Instagram une photo de Castex et lui où il était sans masque. Il y a encore 2 ans, après l'affaire Griveaux, tout le monde effaçait les photos de son oui-oui en plein retour de pêche de son 06. Maintenant, donc, c'est passé au visage. Hein. Le vice-premier ministre belge, Quickenborn, hein, le seul à porter le nom d'un service de recharge de vélo électrique, a été mis en quarantaine hein, parce qu'il a croisé Castex et Dupond-Moretti. Alors, il y a des photos du Belge avec un masque à côté de Dupond-Moretti, non masqué, parce que lui aussi était passé à autre chose. Quoi. 200% résilience. Hein, 2 picousses dans le bras, ils ont fait voler les masques. Ils étaient à 2 doigts d'enchaîner avec leur slip, mais l'infirmière leur a dit « tu vas te calmer hein. ». Au congrès des maires de France, qui est un apéro géant entre gens à écharpe tricolore, hein, comme une soirée Miss France, mais avec des physiques passables. Ils sont également farcis un cluster. 12 maires du Cantal ont le Covid. Alors, enseignement, le fromage ne protège pas du virus. Hein. Mais le président de l'association des maires du Cantal parle de mini-cluster. Hein, 2 gosses dans une classe qui ont 38,4. Il faut quasiment que les parents les foutent à la cave à la Natacha Campouche. Mais 12 maires qui contractent le Covid, non, c'est un mini-cluster. Et encore, s'ils avaient été 8, on parlait de Rikiki cluster. Hein, bientôt, on va leur prendre la température avec un microscope. Et mardi soir, autre ministre, Brigitte Klinker, a annoncé qu'elle avait aussi le Covid. Alors, ce qui est bien avec ce virus, c'est qu'il permet de découvrir des gens. C'est un tremplin. Hein, comme la France a un incroyable talent, mais sans groupe de chant qui a l'impression de réenchanter le monde en reprenant Fait comme l'oiseau. Hein, Brigitte Klinker est ministre déléguée à l'insertion. Bon, et pas de bol, hein, maintenant qu'on la connaît, elle est obligée de s'isoler. Hein, elle aura moins profité de sa notoriété qu'un gagnant de The Voice qui skie à 12 heures pour sortir son single, sinon tout le monde l'aura oublié. Alors bien sûr, ni Castex, ni Klinker n'ont développé de forme grave. Grâce au vaccin, Castex a juste, dit-on, une légère toux et de légers symptômes. En fait, tout chez lui est léger. Hein, son poids total est d'ailleurs maintenant de 16 kilos. Hein, c'est plus un mec, c'est une plume. Enfin, encore 200 comme ça, on fait une doudoune. Et tous disent à propos de leur soirée entre amis, sauf Castex, hein, parce que Castex, il sait que c'est sa fille qui l'a contaminée. Il a même déterminé de quelle gouttelette il s'agissait, la numéro 12 sur une giclée de 41, délivrée à 21h34 le 18, quand elle lui disait « Papounet, s'il te plaît, file-moi la télécommande bon. ». Et mais tous les autres disent « Oui, bah, dans nos soirées, il va le passe sanitaire à l'entrée, on s'est fait biper comme des tranches de poulet à la caisse chez Auchan. Ah oui, mais si on prend juste comme référent les contaminations, ça va pas suffire, parce que apparemment, le vaccin n'empêche pas les contaminations. Et là, dans plein de villes, vous allez à un concert, il y a 400 gugus non masqués en train de hurler les refrains. Il y a plus de gouttelettes là-dedans que dans toute l'histoire de la pluviométrie à Brest. À part dans les concerts classiques, où on pense juste dans sa tête des trucs comme il n'y a pas à dire, Brahms, c'est un killer. Donc, tout ça pour vous dire que le Covid, moi j'en peux plus. Je me lave les mains 40 fois par jour. À force de frotter, j'ai même effacé mes empreintes digitales. Dans NCIS, je pourrais tuer des tas de gens en touchant tout chez eux sans craindre qu'on me trouve. Je m'approche plus des autres. Hier, Daniel Morin m'a demandé un café, je lui ai jeté à la gueule. Sa chemise était toute tachée. Et après avoir reçu le café, elle était encore plus. C'est la 5e vague. On sait pas combien il y en aura en tout. C'est alerte à Malibu, mais sans Pamela Anderson. Donc, c'est nul, quoi, le truc. Alors, oui, on est humain. Oui, on fait ce qu'on peut. On se relâche parfois. On sait plus trop. On est un peu désespéré. Nous sommes 67 millions de Jean Castex. Enfin, en plus prudent, quand même.
Merci, Tanguy Bassolo.
Et Tanguy, tu seras le 20 janvier à Aulnay-sous-Bois, au théâtre Jacques Prévert.
Oui, bah, dis donc.
Je repense à ce que faisait Guy Bedos sur scène. Je sais pas si d'autres, depuis, le font, l'espèce de revue de presse que faisait Guy Bedos.
Oui, moi, je le fais.
Un cours.
Voilà. 7-8 minutes de politique, quoi.
Est-ce que c'est, ouais, mais bon, ça peut, c'est pas forcément sur la politique, en tout cas. C'est ce qui
moi, c'est
écrit.
La revue de presse politique.
Voilà, ouais. C'est politique. Mmh. C'est quelque chose qui vous est passé par la tête, Mathieu Madénian?
Moi, j'en fais quelques fois, ouais, quand il y a des sujets. Moi, je suis pas un spécialiste de la politique. Après, il faut rester aussi à sa place. Mais, j'ai une sensibilité. Et quand il y a des trucs qui me choquent, je le dis. Donc, je rentre pas dans les détails, mais, je m'aventure quelques fois à dire des choses,
ouais,
qui me...
Ouais, mais des fois aussi, vous dites des trucs pas forcément pour qu'elles soient drôles, quoi. C'est-à-dire, non, vous envoyez une phrase comme ça,
Mais on n'est pas obligé d'être, alors, bien sûr, on fait des spectacles marrant, mais on peut être, on a le droit de pas être drôle dans un spectacle. Si les gens sont avec toi et on n'est pas obligé d'avoir la vanne toutes les 30 secondes non plus.
Ah bah moi j'ai vu les Bedins,
c'est très politique.
Ils ont pris ce droit.
Numéro 1 au box-office. Hein.
Ah mais c'est
ça pique.
C'est oui, on a le droit de pas être marrant et de faire passer des de dire ce qu'on pense, pas faire passer des messages. On n'est pas là pour changer les gens. Je pense pas que les gens qui viennent nous voir en sortant de la salle se disent « Ah, j'ai écouté Mathieu Madénian, j'ai totalement changé d'avis. » Mais au moins, monter sur scène et mettre, mettre ses tripes un petit peu. C'est ça l'intérêt de ce travail aussi.
Les codes du stand-up, c'est d'avoir une musique un peu entraînante au début, une autre à la fin, qui soit bien en rythme pour qu'on tape
des bains. Il y a autant d'écoles que de comédiens ou de comédiennes. Ouais. Quand tu regardes Morgan sur scène, c'est unique. Quand tu regardes Paul, c'est encore plus unique.
Quoi. Il y a la musique.
Chacun a sa musique, chacun a son phrasé. Et je sais que ce que fait Paul ou ce que fait Morgan, dans ma bouche, ça passerait pas. Ça serait pas marrant parce que ça leur appartient à eux.
Non, je parlais des codes du stand-up. C'est-à-dire, donc, il faut qu'il y ait une musique, quelle que soit. Chacun prend sa musique, son tempo. Est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi un moment où on prend une ou deux personnes dans la salle?
Pas obligé. Il n'y a pas d'obligation. Il y a chacun sa manière de travailler. Chacun, après, tu peux avoir des spectacles plus ou moins participatifs, peut-être, mais ça dépend de ton thème.
Où vous vous régalez, parce que moi, je vous ai déjà vu faire.
Moi, sur scène, il y a un truc, quand je suis en tournée, je fais toujours 5 à 10 minutes sur le lieu dans lequel je suis. Donc, on se débrouille toujours pour arriver avant midi. Avec mon équipe, c'est-à-dire mes régisseurs, ma première partie.
Pour choper des infos.
Et je vais voir le gars, vas-y, dis, parle-moi du maire, parle-moi des scandales, dis-moi le bar le plus pourri d'ici, on va y aller, sors-moi des trucs d'ici, et raconte-moi des histoires. Je prends toujours la presse et j'essaie de trouver 2-3 trucs marrants.
Ce qui est génial, c'est que le public, là, a un sentiment d'avoir quelque chose d'unique et c'est de
sur-mesure. Oui, moi, quand j'étais petit, que j'allais voir des comics sur scène, je rigolais, et à la fin du spectacle, je me disais, mais mince, demain, il va faire à Narbonne ce qu'il a fait à Perpignan. Ouais. Et je suis juste... j'avais cette impression-là. Alors peut-être que c'est vrai ou pas. Et moi, quand je monte sur scène et que les gens payent 30 balles, je sais qu'en ce moment, en plus, c'est pas évident. Donc j'essaie quand même de leur montrer que j'ai un peu travaillé pour eux.
Morgane, Cadillan ?
Non, pour revenir sur les codes et la musique, ce que tu disais, c'est, je pense qu'il n'y a rien d'obligatoire. Après, le but, tu vois, tu vas quand même pour 1h20, tu as quand même envie que les gens soient un peu chauds.
D'accord.
Donc, je pense que c'est pour ça qu'on met de la musique entraînante. Mmh. Le but, c'est de passer un bon moment et de pas cramer.
Revenons sur l'histoire de 1h20. Parce que il faut pas être ni trop court ni trop long aussi quand on fait du stand-up.
Il y a plus, hein. Il y a 1h40, 1h. En général, quand tu commences, tu fais 1h, quoi.
Moi, le spectacle, là, tel qu'on l'a capté, c'est 1h. Parce que moi, c'est perso, je pense qu'au bout de 1h15, déjà, je les emmerde un peu. Je me dis, est-ce que j'ai encore des trucs intéressants à dire?
Elle fait 1h30 là, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Exact. Donc, je me dis, vas-y, je fais 1h, calibré, canon.
Danse.
Et je pense que, enfin, pour moi, par rapport aux gens qui viennent me voir, je me dis peut-être ça leur suffit.
Mais faut aller choper les gens dès le début. Et si tu commences sur des chants grégoriens, c'est sûr que.
C'est sûr que c'est compliqué.
En tournée dans toute la France, et ça continuera en janvier, 22 février aussi. Mathieu Madénian, un spectacle familial. D'autres événements dans la culture, Leïla.
On va parler de Lady Gaga, qui est à l'affiche depuis hier de House of Gucci. Elle vient de révéler que la robe qu'elle portait lors de l'investiture de Joe Biden était particulière.
Oui,
de quoi
moi,
s'agit-il?
C'était une veste par balle, une robe par balle.
Absolument, ouais. Une veste par balle qu'elle a revêtue pour chanter l'hymne national américain devant le Capitole à Washington.
C'est
bonne
ouf.
Ambiance. Une robe Schiaparelli, pour les mots d'eux. La célébrité, on s'y habitue un jour, à ce point.
Avec un gilet pare-balles.
Avec un gilet pare-balles. Non, mais c'est assez, assez fou de voir ce qui se passe aux États-Unis.
C'est peut-être pas elle
qui
avait décidé,
d'ailleurs. C'est là que tu te dis que les humoristes, en fait, on change pas grand-chose. Parce que quand les gens disent ouais, l'humour peut faire avancer les choses, évoluer les choses, quand tu vois qu'aux États-Unis ils ont les meilleurs comiques, les meilleurs auteurs, les meilleures séries humoristiques, ils ont eu Trump, ça a pas empêché.
C'est ça.
Non mais c'est ça qui est terrible.
Et il y avait surtout tous les artistes qui étaient contre Trump et qui ont fait campagne contre.
Donc voilà. Mais c'est vrai que quand tu te dis que le modèle américain, t'as une nana qui chante l'hymne américain avec un gilet pare-balles, faut pas que ça arrive ici, quoi. C'est juste ça.
Et en parlant d'humoriste américain, en parlant d'humoriste américain, de série ou de stand-up, pour vous la référence, c'est encore qui ou c'est qui?
J'ai pas de en série là, je suis sur Succession.
Ouais.
Génial.
Oh là là.
C'est génial.
Mais c'est fou.
C'est Dallas.
Ah mais c'est incroyable. et Fleabag aussi, une série anglo-saxonne qui est incroyable. Et en humoriste, j'aime tout le monde. En fait, il y a pas de spectacle qui ressort. Il y a un mec qui parle très bien de la famille, un américain qui s'appelle Maniscalco, qui est très bien. Voilà, c'est juste ça. Mais
et sinon les Seinfeld, tout ça, c'était des.
C'est super bien. Mais il y a autant de styles que d'humoristes en fait. Donc.
Est-ce que ça vieillit beaucoup?
Les spectacles vieillissent vite en fait. Mm-hmm. Ben, ça dépend.
Tu revois Friends maintenant, ça pas tant vieilli que ça.
Non, mais c'est une
ouais,
fille,
mais,
par exemple.
Mais tu vois, Magnum, j'ai revu les. Bon, alors c'est pas marrant, Magnum, mais j'ai vu Magnum. Ah, j'ai fait merde.
Moi, j'ai revu Laurel et Hardy, ça n'a pas pris une
Non, mais ça vieillit dans l'image, mais ça vieillit dans les propos. Ça vieillit dans les propos, il y a des trucs.
Les références.
Non, mais il y avait des blagues, par exemple, Seinfeld, c'est hyper genré, c'est vachement nous les mecs et vous les femmes et la drague. Et c'est sûr que tu regardes ça aujourd'hui avec toutes les avancées qu'on a eues, c'est hyper sexiste.
Ouais. Moi, j'aime bien parce que je préférais ce monde-là.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler réellement d'avancées?
Autre question qui vient de déclarer: je ne me suis jamais senti accepté par la scène pop.
C'est toi.
Ça, c'est sûr. C'est l'un des plus gros vendeurs de pop actuel en réalité.
En France?
Ed Sheeran?
Absolument, c'est Ed Sheeran. Alors, chaton. Il considère que jamais il a été accepté par ses confrères consoeurs, que les peu de compliments qu'il reçoit, ça vient plutôt de la scène rap aux États-Unis, et qu'il n'a vraiment pas la carte. Il se compare même à Phil Collins, considérant que lui aussi.
C'est pas comme comparaison, c'est tranquille.
Bah c'est cool. Lui aussi, j'ai à l'époque de Genesis, n'était pas apprécié par les artistes pop contemporains de l'époque, mais par ceux issus d'autres genres musicaux. Avoir la carte quand on est un artiste, Mathieu Madénian, c'est essentiel pour durer.
Moi, j'ai aucune carte. Je suis
Si vous avez la carte Kader Aoun.
Mais la carte, en fait, c'est ce que tu. Faut pas chercher à avoir la carte. Enfin, je sais pas, on fait pas ce métier pour avoir une carte. Moi, je sais que ça me fait marrer de faire des émissions promo, de passer de Quotidien à Drucker, d'avoir écrit pour Charlie et en même temps de faire des chroniques. J'ai pas de carte.
Même pas la carte Gold après toutes ces années de carrière.
J'ai la carte Gold.
Ah, avant, d'accord.
Je te jure, j'ai la carte Gold. Je suis content.
Par contre, vous avez faire Quotidien, c'est avoir
la carte.
Ouais, mais justement, peux faire Quotidien et deux jours après, je fais Drucker avec Eddie Mitchell en face de moi.
Ça, c'est avoir la carte vermeille.
Oui, c'est ça. Mais justement, avoir une carte, ça te permet de pas faire certains trucs. Là, je commence à faire un peu de séries sur France 2 et TF1. Tu vois, j'ai des petits rôles, mais
qui sont pas des rôles de comique.
Si, j'ai fait un téléfilm sur TF1 qui s'appelle Le Furet, où je me fais mordre les testicules par un furet et je deviens stérile.
C'est pas drôle.
C'est une comédie. Mais encore une fois, tu vois, ça c'est bien parce que. Tu vois, on parle des séries américaines comiques et anglaises, et on dit en France on est mais en France on n'en fait pas. Je suis sûr que si des chaînes comme France Télé, TF1, se donnent les moyens de faire de la pure comédie, de la vraie comédie.
Mais pourquoi vous l'écrivez pas?
Non, mais si, mais sur Netflix par exemple, il y a Agnès Hurstel là qui a fait.
Je te parle de chaînes scénaristes. Tu vois, je suis sûr qu'il y a des scénaristes, des très bons scénaristes de comédie, des très bons comédiens et comédiennes de comédie, mais il faut leur laisser le choix de travailler, de faire de la pure comédie, et pas de la drama comédie.
La différence, c'est que justement l'humour ou le sujet ou le propos qui va être raillé par l'humour ou la vanne qui va être faite, on prend des pincettes maintenant parce que il faut pas se moquer des Arabes, des Noirs, des musulmans, des handicapés,
et
des
femmes, et pourtant, que c'est
on fait attention à tout. Alors que si on fait un policier,
tu prends pas de risque quand tu fais du drame, tu prends pas de risque quand tu fais de la comédie.
Il y a mort, il y a une enquête et puis basta quoi.
Mais c'est encore une fois, la comédie, c'est un exercice. On fait on est sur un fil.
Mais est-ce que vous avez essayé d'écrire une série comique?
On a plein d'idées, mais quand tu regardes ce qui se passe à la télé en ce moment, c'est toujours. En ce moment, c'est la mode, c'est les disparitions. Tiens, t'as toujours quelqu'un qui disparaît. Et en France,
Mais ça explique le succès de trucs comme La Flemme. Parce que d'un coup, tout le monde prend, ça rigole de tout.
Mais quand vous allez dans.
Quand c'est fait avec talent.
Tous les diffuseurs disent chercher une vraie comédie, une vraie série de comédie.
La fameuse ménagère.
Ils disent ne pas la trouver.
Ouais, voilà. Mais c'est ça. Mais si c'est fait avec talent, c'est pour ça que même quand tu montes sur scène et que tu abordes des sujets touchy, quand c'est fait avec talent et que c'est marrant, ça passe.
On va parler de Taylor Swift et de Spotify. Elle vient de battre cet artiste de record sur la plateforme de streaming. De quel record je parle?
De précommande?
Non.
Stream par jour.
Écoute déjà.
Ouais, stream par jour. L'artiste féminine la plus streamée en une journée.
Il y a un deuxième record?
Ouais, deuxième record, c'est là où c'est un peu fou.
Sur Spotify.
Ouais, sur Spotify.
Elle a dépassé quelqu'un?
Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que écouter sur Spotify?
Tu peux écouter, donc être la plus streamée et aussi.
La plus payée, elle a gagné beaucoup d'argent?
Non, pas en termes d'argent.
La plus détestée.
Non plus.
Maintenant, la plus répétée.
La plus écoutée en nombre d'auditeurs.
Ouais, c'est l'album le plus streamé aussi. Sûr. C'est non seulement c'est l'artiste alors c'est l'artiste féminine.
C'est le nombre d'écoutes et le nombre de personnes qui sont allées
télécharger l'album. Alors, je vais expliquer, c'est l'artiste.
Oh, tu parles pas sur
bah oui, mais bon, tu me laisses parler.
Calme-toi Christophe.
C'est l'artiste féminine la plus streamée en une journée
en général.
Et c'est aussi l'album féminin qu'elle a sorti le plus streamé en une journée aussi. Voilà. Les deux. C'est complètement
l'album.
Putain, je suis largué.
C'est écouter. Pas grave. En tout cas,
attends,
elle a été
attends,
très streamée.
On va écouter.
Donc là, elle est encore streamée, là.
Et là, on la stream. Fou. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réorchestre un grand nombre de ses titres parce que les droits étaient passés entre différentes mains, donc elle veut se les approprier à nouveau, donc elle réorchestre,
chanteuse,
elle ressort les
chanteuse
titres.
Chanteuse country music.
Absolument.
À la base, Taylor Swift.
Vous écoutez de la musique comment? Sur quel support? Sur le téléphone? Sur les CD, les vinyles?
Comment j'écoute de la musique? En fait, c'est des musiques de, c'est des périodes. C'est des périodes de l'hiver, j'écoute des trucs, en fait, ça dépend.
C'est pas ça
quel
la question.
Support, lequel support?
Quel matos?
Ouais.
Mon téléphone.
Ouais, toujours le téléphone. Ouais, pas de CD, pas de chaîne à la maison, pas
vinyle.
De.
Non, le vinyle reprend un petit peu. Même il y a plus de vinyle vendu aux États-Unis que de CD. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais non, je suis maintenant j'ai Spotify. Je mets ça, c'est génial ça. Ouais.
Et vous écoutez quoi?
Là, je suis allé avec ma copine. On est allé voir Cœur de pirate. Je connaissais pas. C'est très joli. C'est très bien. Et en ce moment, j'écoute. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Attends, je vais te dire ce que j'écoute en ce moment. Attends, j'écoute.
On bouge pas.
Attends, je vais trouver. Je sais plus.
4 minutes.
Attends, je sais plus ce que j'écoute, mais
Cœur de pirate.
J'écoutais pas mal Cœur de pirate et là j'écoute. Merde, c'est quoi le nom? Le truc là, Jérusalem, c'est ça? Ça
ouais,
existe.
Ah, ouais.
Et je fais des danses dessus.
Ok.
Sur TikTok,
je fais des blagues dessus. Mais pour moi, ouais, voilà. J'aime bien faire ces merdes là, ces trucs comme ça. Mais j'écoute beaucoup Jonas en ce moment. J'aime beaucoup en ce moment.
Mathieu Madignan en spectacle le 4 décembre, donc la semaine prochaine à Malhermont sur Corrèze, le 16 décembre à Bourg-les-Valence, le 17 à Voiron, puis il fêtera les fêtes de Noël en famille j'imagine, le 21 et 22 janvier Toulouse, 25 janvier Perpignan, 29 janvier Villeparisis, le 8 février pardon Clermont-Ferrand, le 17 mars à Rennes, 21 mars Bordeaux, 31 mars et 1er avril Lille, 7 avril Marseille, 9 avril Nîmes, et tout de suite des excuses Daniel.
Absolument, déjà désolé pour Éric Zemmour qui ce matin a vraiment, vraiment cru que Nagui allait sûrement suivre son programme et s'appeler Christophe. Non, il refuse. Alors, en revanche, si vous êtes élu, monsieur Z, il va changer, c'est clair. Il va sûrement changer de pays. Désolé pour tous ceux dont les enfants font des études de droit pour devenir avocats et qui, depuis ce matin, ont la trouille que leur enfant finisse mal. Truc style humoriste. Et pas de panique, vous avez entendu Mathieu Madignan. On mange gratos, on boit gratos, on fréquente des stars. Bon, des stars en fin de vie, mais des stars quand même. Désolé pour Vincent Delerme, Dominica, Benjamin Biolay, enfin, toutes les stars de la programmation musicale de France Inter qui ont pris un petit coup dans la gueule, on peut le dire, en entendant ce matin. Eh ouais, ça c'est de la chanson française, c'est bon, c'est clair, c'est engagé, c'est de la poésie les amis. Désolé pour Patrick Sébastien du coup qui pensait avoir enfin intégré la playlist de France Inter et qui s'est fait doubler au dernier moment.
Et tu danses avec lui.
C'est tellement efficace ce slow.
On l'aura vraiment bien salopé cette antenne et demain on continue de la salir avec un homme qui bouffe des bananes toute la journée et une femme qui vomit dans ses films, à savoir Philippe Catherine et Anaïs de Moustier.
Exactement, pour la pièce rapportée. Merci Mathieu Madignan.
Merci d'avoir écouté et m'avoir invité, c'est adorable.
Bonne tournée, vous êtes un peu chez vous ici, on a toujours du plaisir à vous accueillir en tout cas. Et en effet demain, Anaïs de Moustier, Philippe Catherine et tout de suite les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.